Ecclésiaste 1, verset 4. Une génération s'en va et une génération vient, et la terre subsiste toujours. C'est un verset dans les épîtres à Timothée, 1 Timothée 6, 20. Timothée, garde ce qui t'a été confié, fuyant les discours vains et profanes, l'opposition de la connaissance faussement ainsi nommée. Timothée 1, 12. Je suis persuadé que Christ a la puissance de garder ce que je lui ai confié, c'est-à-dire mon dépôt jusqu'à ce jour-là, et un modèle des saines paroles que tu as entendues de moi dans la foi et l'amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le bon dépôt par l'Esprit Saint qui habite en nous. Chapitre 2, le verset 1er. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est dans le Christ Jésus. Et les choses que tu as entendues de moi devant plusieurs témoins, comme elle est à des hommes fidèles qui soient aussi capables d'instruire les autres. Prends ta part des souffrances comme un bon soldat de Jésus-Christ. Alors, ces choses, ce dépôt, trouvent en pensée dans plusieurs passages dont nous lisons le premier en Exode 12. Exode 12, 14. Ce jour-là, c'est le jour de la Pâque, vous serez un mémorial et vous le célébrerez comme une fête à l'Éternel, vous le célébrerez en vos générations comme un statut perpétuel. 26. Quand vos enfants vous diront « Que signifie pour vous ce service ?» il arrivera que vous direz « C'est le sacrifice de la Pâque à l'Éternel qui passa par-dessus les maisons des fils d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa les Égyptiens et qu'il préserva nos maisons. » Même chapitre, verset 42, c'est une nuit à garder pour l'Éternel, parce qu'il les a fait sortir du pays d'Égypte. Cette nuit-là est à garder pour l'Éternel par tous les fils d'Israël en leur génération. Pourquoi sommes-nous là? Qu'y a-t-il? Quelle est la doctrine chrétienne? Pourquoi sommes-nous là? Parce que nos parents sont venus, parce qu'on nous a enseigné la vérité, parce qu'on a l'habitude de venir. Faut-il aller ailleurs? Faut-il rester? Une génération vient, notre génération s'en va. La terre subsiste toujours. Peut-être notre génération, d'ailleurs, est celle qui aura l'honneur de voir le retour du Seigneur Jésus, qui n'achèvera pas sa vie sur la terre par la mort, mais qui sera enlevé sans connaître la mort. Il y a un dépôt des vérités chrétiennes, c'est la foi. Une des trois acceptions du mot foi. La foi qui sauve, la foi en confiance en Dieu, et puis la foi qui est l'ensemble des vérités chrétiennes. Qu'avons-nous reçu de nos parents? Qu'avons-nous reçu des frères qui nous ont enseigné dans les assemblées? Nous avons honoré, vénéré, peut-être quelquefois trop souvent oublié, qui ont répété souvent les mêmes choses, et Paul et Pierre, l'un et l'autre sont d'accord pour dire que ce n'était pas pénible pour eux et que c'était notre sûreté. Ils nous répétaient les mêmes choses. On a vite fait de les oublier. On a vite fait d'oublier l'enseignement de ses parents, l'enseignement des frères qui nous ont enseigné, qui nous ont précédés dans le chemin. Il ne devrait pas en être ainsi. En même temps, les choses sont telles actuellement, particulièrement ce qui est dit dans l'enseignement dans les écoles. Le mouvement même dans ce monde est tel que le fait de dire une chose ne suffit pas pour qu'elle soit nécessairement acceptée par tous. Le monde n'a plus jamais été le même depuis 1968 ici. D'ailleurs, tous les pays du monde ont connu cette même révolution. Il n'y a pas une révolution dans les choses de Dieu, dans les assemblées. Mais il est bon de temps en temps de faire le point, savoir où nous en sommes, savoir ce que nous croyons, savoir ce que nous avons reçu, savoir ce que nous avons à transmettre aussi. Le temps passe vite. Et puis, une seule vie vous est prêtée à chacun, m'est prêtée à moi. Et lorsqu'elle est passée, eh bien, c'est trop tard pour avoir des regrets. À quoi servent les regrets? Or, en fait, quand on y réfléchit, la vie, c'est Christ. La vie de l'Assemblée, c'est goûter la présence de Christ, goûter la joie de sa communion, la jouissance paisible de son amour. Et si les générations comme la mienne qui avancent en âge cherchaient mieux à comprendre les jeunes, si les jeunes, au lieu de tout casser quelquefois, cherchaient plus à écouter ce qui leur est dit, eh bien, des difficultés seraient évitées dans les assemblées. Le clivage des générations serait évité. Il est de plus en plus important de bien porter attention à ces choses. Alors revenons aux choses du commencement, revenons aux choses fondamentales. Et les choses commencent, en fait, par la Pâque, par la conversion. Parce qu'en fait, rappelons-nous que l'histoire d'Israël est donnée pour deux choses, d'un côté pour nous avertir et de l'autre côté pour nous consoler. Encore Corinthiens 10 et Romains 15. Donc la patience et la consolation des Écritures nous donnent l'espérance. Les choses sont données aussi pour notre avertissement, à nous que les fins des siècles ont atteint. L'histoire d'Israël n'est pas le type de l'histoire de l'Église, mais ce que Dieu a fait au milieu de son peuple terrestre est rempli de très profondes, très utiles instructions pour nous. On peut dire que l'histoire du peuple d'Israël a commencé en fait en Égypte. Habituellement, Dieu est le Dieu des Hébreux jusque-là. Ensuite, il devient le Dieu d'Israël, il devient le Dieu victorieux, il devient le Dieu de la délivrance. Et l'identité du peuple, comme peuple, est marquée à partir de la sortie d'Égypte, à partir de la traversée de la mer Rouge, lorsque dans le désert, le peuple est constitué comme un peuple d'adorateurs. Mais auparavant, il fallait deux choses. D'un côté, échapper au jugement, et de l'autre côté, traverser la mer Rouge, figure de la mort. Alors, ces choses arrivent à la Pâque. La Pâque, c'est l'acte de passer par-dessus. Les Israélites avaient trouvé refuge dans les maisons, à l'abri du sang, et ils avaient mangé l'agneau pascal, rôti au feu, sans casser les os, mangé avec les pains sans levain et les herbes amères. C'était une nuit solennelle, une nuit qui était gardée par les fils d'Israël et qui devait être transmise comme message à tous les enfants. Les enfants pouvaient poser cette question, mais pourquoi gardez-vous ces choses? Eh bien parce que signifie pour vous ce service? C'est le service de la Pâque à l'Éternel qui passa par-dessus les maisons des fils d'Israël en Égypte. La même pensée, la question que peuvent poser nos enfants, se retrouve exactement juste à la traversée du Jourdain. C'est dans Josué 5, sauf erreur. Nous lisons le passage. 5, 21. Il parle aux fils d'Israël, disant, « Lorsque dans l'avenir, vos fils interrogeront leur père, disant, « Que sont ces pierres ?» Vous instruirez vos fils en disant, « Israël a passé ce Jourdain à sec, parce que l'Éternel, votre Dieu, sécha les eaux du Jourdain devant vous, jusqu'à ce que vous eussiez passé, comme l'Éternel, votre Dieu, a fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous, jusqu'à ce que nous eussions passé. » Afin que tous les peuples de la terre connussent la main de l'Éternel, qu'elle est forte, afin que vous craigniez toujours l'Éternel, votre Dieu. Ce passage est remarquable parce qu'il lie les trois phases de la délivrance complète d'Israël dans une même pensée. C'est la pensée profonde de Dieu de nous sortir de l'état d'esclavage dans lequel nous étions par nature, figuré par Israël en Égypte, qui faisait des briques, on lui refusait et la paille, et l'argile, il fallait qu'ils cherchent tout ce qui était nécessaire pour faire les briques, et ils ne recevaient que des coups. Il a d'ailleurs vite oublié la servitude de l'Égypte, en pensant à ce qu'était la nourriture lorsqu'il est sorti d'Égypte. Mais c'est une autre pensée. Alors il fallait échapper au jugement, ensuite, des premiers-nés. Il fallait traverser la mer Rouge. C'était l'obstacle pour sortir du pays de la servitude et connaître la délivrance. Et ensuite, à travers le désert, il fallait franchir au-delà le Jourdain pour entrer, en fait, dans le pays de la promesse. La pensée de Dieu est donc de tirer des hommes, des créatures dont Dieu veut faire ses enfants, un peuple de sacrificateurs et d'adorateurs, et les faire habiter sa propre maison, son ciel, qui est figuré ici sous le terme de Canaan, de la terre d'Emmanuel. Il y avait trois choses, il y avait donc la Pâque, il y avait la traversée de la mer Rouge, il y avait la traversée du Jourdain. La mer Rouge, c'est la mort de Christ, ou on peut le dire aussi, sa résurrection, et le Jourdain serait son élévation dans la gloire. Mais les points essentiels, c'est de savoir que à la mer Rouge, Christ est mort pour nous. Au Jourdain, nous sommes identifiés avec Christ dans sa mort. Et le résultat, c'est la bénédiction divine goûtée par la foi dans les lieux célestes, qui sont pour nous dès maintenant notre patrie. Le lieu dans lequel, par la foi, nous demeurons. Alors voilà le terrain fondamental sur lequel nous nous trouvons. Il y a eu un sacrifice accompli. Christ est la vraie Pâque, la Pâque à l'Éternel. Cette Pâque, Christ, votre Pâque, a été sacrifié. Christ a été l'agneau de Dieu, livré, dont le sang a été versé et qui nous garantit contre le jugement. À la Pâque, Dieu était un juge, à la mer Rouge, Dieu était un libérateur. Au Jourdain, maintenant, le Dieu Sauveur nous fait entrer dans sa présence même par la foi. Cette nuit était une nuit à garder, c'était une nuit solennelle. On marquera d'ailleurs que le passage de la mer Rouge a eu lieu de nuit, sans probablement que le peuple ait guère compris ce par quoi il traversait, ce par quoi il avait à connaître. Alors qu'au Jourdain, le passage du Jourdain s'est fait deux jours. Mais l'un et l'autre étaient deux obstacles tout à fait infranchissables. La mer Rouge, c'était les eaux magnifiques, et le Jourdain regorgeait par-dessus tous ses bords tout le temps de la moisson. Donc pourquoi sommes-nous ici? Bien parce que nous sommes des rachetés du Seigneur, parce que Christ est mort pour nous. Pourquoi? Chaque dimanche, et non pas de temps en temps, non pas selon une convention humaine, non pas selon un arrangement des hommes. Pourquoi sommes-nous là? Pour rappeler chaque premier jour de la semaine ce que Christ a fait pour nous. Bien parce que nous répondons au désir de son cœur. Il y a la Pâque, il y a la scène. La Pâque est l'anticipation de la mort de Christ. La scène en est le précieux souvenir pour le temps de son absence. C'est le point essentiel, c'est le centre même de la vie chrétienne, de la vie de l'Assemblée. Acte 20. Lorsque nous étions rassemblés pour rompre le pain, bien d'autres choses sont passées dans cette journée mémorable où Eutyche est tombé de la fenêtre. Puisque Paul a prêché très longuement jusqu'à l'aube du jour, sans dormir, et que il a réveillé d'entre les morts cet homme dont l'âme était encore en lui. Mais ils étaient rassemblés pour rompre le pain. Pourquoi sommes-nous ici? Eh bien, pour nous souvenir de la mort de Christ. En attendant l'éternel rendez-vous dans lequel Christ sera tout et en tous, dans lequel Christ lui-même aura dans nos cœurs remplis de sa grâce toute la place. Mais en attendant, il y a un chemin, il y a le passage des générations, il y a une vie qui est prêtée à chacun, la jeunesse, l'âge mûr, et puis la vieillesse. La jeunesse, c'est le cantique des cantiques. L'âge mûr, c'est les proverbes, le livre de la sagesse. Eh bien, plût à Dieu que pour personne de nous, lorsque nous arriverons au terme de notre vie, ce soit l'Ecclésiaste qui soit le résultat de notre vie, c'est-à-dire vanité des vanités, tout est vanité. Heureusement que nous avons un autre but que de réaliser toute la vanité du monde. Eh bien, nous avons Christ comme objet, profitons-en maintenant. Alors, il faut des ressources pour cela. Il faut les ressources de la grâce. Et nous les trouvons dans les passages qui suivent. Au chapitre 16, le verset, Exode 16, le verset 33, pour ne pas trop allonger les lectures. « Prends une cruche, milieu du verset 33, mets-y plein un omer de manne, et pose-la devant l'Éternel pour la garder pour vos générations. Comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse, Aaron la posa devant le témoignage pour être gardée. Les fils d'Israël mangèrent la manne 40 ans jusqu'à ce qu'ils entrèrent dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée à la frontière du pays de Canaan. » Alors la manne, c'est Christ pour nous, comme nourriture de nos âmes, en rapport avec les expériences du désert, c'est-à-dire les expériences de la vie dans ce monde, dans le corps. Ce n'est pas ce que nous goûtons lorsque, par la foi, extase ou non d'ailleurs, par la foi, nous entrons en pensée dans le sanctuaire, dans la présence même de Dieu. Nous avons besoin d'une nourriture habituelle de notre âme, chaque jour, pour traverser les circonstances, et c'est Christ qui est cette nourriture. C'est une nourriture céleste, c'est Christ lui-même. En même temps, il est adapté aux besoins de son peuple qui est dans le désert. Alors les épîtres du désert, Romains, Hébreux en particulier, nous donnent quelque chose à goûter de ces choses. La manne était une chose étrange, c'était un miracle. Au milieu du désert, Dieu avait fait sortir l'eau du rocher, il avait fait sortir cette graine de coriandre. L'homme ne savait pas ce que c'était. Qu'est-ce que c'est que cette manne? Eh bien, c'était la nourriture du peuple. Elle était comme un gâteau de miel. Le peuple s'est vite dégoûté et a osé dire que son âme était dégoûtée de ce pain misérable. Lorsque nous nous laissons prendre par les circonstances, lorsque nous doutons de la grâce de Christ, eh bien voilà comment nous traitons le don de Dieu, qui est Christ comme nourriture du cœur, nourriture de l'âme. Le Seigneur nous garde ces choses. Mais il y a dans cette pensée de la manne et de la cruche, quelque chose encore beaucoup plus précieux. C'est en rapport avec la promesse qui est faite à Pergame que nous voyons cette pensée-là. Il y a la manne cachée. Chaque frère, chaque sœur, chaque croyant, chacun de nous, nous emporterons, nous ne pouvons pas manquer d'emporter de notre vie chrétienne quelque chose, un secret. Parce que Christ aura percé la peine de notre cœur pour y apporter le baume de ses suprêmes consolations. Il est impossible que le cœur ne fasse pas des expériences précieuses si nous goûtons ce que c'est que la présence de Christ au milieu des peines et des souffrances de la vie présente. Il y a une expérience, quelque chose de particulier, d'exceptionnel, qui lie l'âme à Christ. Et à Pergame, c'était d'autant plus nécessaire de faire cette expérience que, dans l'ensemble, l'Église était complètement détournée. Elle avait fait deux choses, sans entrer dans les détails, je me porte trop loin. L'Église, d'un côté, a été chercher la puissance du monde. C'est Constantin qui a marqué le changement entre la persécution romaine et l'appui du pouvoir séculier vis-à-vis de l'Église. Et d'un autre côté, l'Église s'est constituée puissance protectrice. Les deux choses sont arrivées. Eh bien, dans ce système qui était en train de mûrir vraiment, on peut le dire, vers l'apostasie et l'infidélité, pour celui qui gardait ce qui lui était confié, eh bien, Christ était la manne cachée. Apocalypse 2, 17, « À celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et sur le caillou, un nouveau nom écrit, que nul ne connaît sinon celui qui le reçoit. » La manne cachée, c'est Christ. Le caillou, c'est la même pensée qu'en acte 26, lorsque Paul, revenant en arrière sur sa vie passée, avant sa conversion, dit « Lorsqu'on cherchait à combattre et à tuer les chrétiens, j'y donnais ma voix. » En fait, chaque homme qui votait avait un caillou, et il donnait sa voix, justement, pour le vote à l'époque. Ici, le caillou blanc, c'est quelque chose de secret, une communion particulière de l'âme avec Christ, et sur ce caillou, il y a un nom caché. Il y a un nom que nul d'autre ne connaît. Et à Philadelphie, la pensée est ajoutée en plus qu'il y a un nouveau nom, le nom de Christ. Quelle pensée profonde. Voilà la manne. La cruche contenait la manne. La manne était gardée comme souvenir de la traversée du désert dans l'arche qui est la figure de l'humanité glorieuse de Christ et de sa divinité. Alors cette cruche, cette manne, l'omer de manne, devait être gardée pour les générations. Christ a été la nourriture des saints et doit l'être jusqu'à la fin, jusqu'à l'enlèvement de l'Église auprès de lui dans le ciel. C'est la deuxième chose. Ensuite, on rencontre les circonstances habituelles du désert. Chapitre 17, Exode 17. Que la vie n'est pas simple et la vie est faite, en fait, si on y pense, de combats successifs. Premier combat, c'est Amalek. Nous savons bien qu'Amalek est la figure comme descendant d'Ésaü et d'homme de la chair qui est en nous. C'est la chair que nous rencontrons dans notre propre cœur. Ce n'est pas un ennemi extérieur, c'est un ennemi que j'emmène avec moi jusqu'à la fin et qui meurt lentement. Convoitise des yeux, convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Quelqu'un a dit que c'était l'orgueil de la vie est la chose qui meurt le plus difficilement, le plus lentement dans le croyant. Et plus un homme avance dans une position sociale ou autre d'ailleurs, plus cet orgueil de la vie est difficile à extirper. Une chose remarquable, c'est que David, dans l'affaire d'Uri, a connu, en tombant d'ailleurs, à la fois la convoitise des yeux, Bathsheba s'est présentée devant lui, et la convoitise de la chair. Et la dernière chose qui l'a fait tomber, et qui, chose remarquable, est donnée en 2 Samuel 23, à la fin de toute sa vie, 24, c'est le dénombrement, c'est l'orgueil de la vie. Alors, que le Seigneur nous garde de cet orgueil de la vie. Mais, de toute manière, il y a un combat constant, c'est Amalek. Exode 17, eh bien, il nous est dit, Moïse bâtit à la fin un autel, verset 15, appela son nom Jéhovah Nissi, c'est-à-dire l'Éternel mon enseigne, et il dit, parce que Jah a juré, l'Éternel aura la guerre contre Amalek de génération en génération. Alors, s'il y a un ennemi, et si l'ennemi est à vaincre, heureusement, nous avons des armes, nous avons une victoire assurée, c'est-à-dire c'est la victoire dans la confiance en Christ et dans l'absence de confiance en nous-mêmes. Nous défions de nous-mêmes. C'est une chose que nous avons à expérimenter par nous-mêmes et à passer d'une génération à l'autre, quelque chose qui devait être gardé de génération en génération. Point de paix. Et si on traite avec les ennemis, comme Saül l'a fait un peu plus tard dans son infidélité, eh bien, c'est pour le dommage de chacun et du peuple et de l'Église tout entière. Au chapitre 27, on entre dans maintenant le côté intérieur de la vie de l'Assemblée. Au verset 20 du chapitre 27 de l'Exode. C'est la quatrième chose. Donc les trois premières, en réalité, si on y pense bien, sont en rapport, d'un côté, avec le salut par la foi, la position chrétienne, avec la nourriture de l'âme qui est Christ, et avec le combat intérieur contre nous-mêmes. Maintenant, le peuple est considéré, on peut le dire dans ces passages suivants, comme dans son identité collective et dans le service sacerdotal, c'est-à-dire le service de l'adoration. Au chapitre 27, le verset 20, « Tu commanderas aux fils d'Israël, ils t'apporteront de l'huile d'olive pure, broyée pour le luminaire, pour faire luire les lampes continuellement. Aaron et ses fils les arrangeront devant l'Éternel depuis le soir jusqu'au matin, dans la tente d'assignation en dehors du voile qui est devant le témoignage. Ce sera de la part des fils d'Israël un statut perpétuel en leur génération. » Il s'agit ici de l'huile d'olive, de l'huile qui fait luire les lampes. L'huile est en rapport avec donc le chandelier à sept branches, dont il est question aussi en Lévitique 24, plutôt l'huile du luminaire. Lévitique 24, la même pensée se trouve au verset 3. Aaron l'arrangera, donc le luminaire, devant l'Éternel continuellement, du soir au matin, en dehors du voile du témoignage, dans la tente d'assignation. C'est un statut perpétuel en vos générations. Il arrangera les lampes sur le chandelier pur, devant l'Éternel continuellement. Alors, le chandelier, c'est la lumière céleste, qui a été Christ sur la terre. Maintenant que Christ est recueilli dans le ciel, qu'il a été chassé du monde, où se trouve la lumière du ciel? Dans l'assemblée, colonne et soutien de la vérité, puisque la lumière et la vérité vont ensemble. La vérité n'est autre chose que la lumière adaptée à l'état de l'homme. Et puis elle est dans chaque croyant. Nous sommes lumière dans le Seigneur, nous sommes une lampe, une lumière qui doit être invitée à briller. Et pour ça, il faut éviter les deux obstacles, du lit, qui est la paresse spirituelle, et du boisseau, qui est les circonstances de la vie, qui étouffent notre témoignage. Une lumière doit être placée de façon à être vue, vue des hommes. Vous êtes la lumière du monde. Marchez comme des enfants de lumière, en portant le fruit de la lumière. Vous êtes lumière dans le Seigneur. Incidemment, il n'est jamais dit que nous sommes amour, simplement invité à marcher dans l'amour, parce que la source même de l'amour est en Dieu. Alors cette lumière est entretenue par les ressources, les secours du Saint-Esprit. Philippiens 1 nous parle des secours de l'Esprit. Et l'Esprit est vu ici sous la précieuse figure de l'huile. L'huile qui était d'ailleurs utilisée dans différentes circonstances mémorables dans l'histoire du peuple. Ici, rappelons-nous que le corps du croyant est le temple de l'Esprit Saint, que l'Assemblée collectivement, corporativement, si l'on peut dire, est aussi le temple même du Saint-Esprit. Nous avons à traiter avec tout l'honneur qui est dû à cette personne divine une telle visite de l'Esprit Saint, plus qu'une visite, c'est une habitation par l'Esprit. Notre corps doit être ainsi un corps conservé dans la sainteté, dans la pureté, comme étant le temple même de l'Esprit Saint. En même temps, si le Saint-Esprit habite avec nous, pour ne plus quitter l'Assemblée et les saints à jamais, il est la personne divine par laquelle la vérité est communiquée à nos âmes et par laquelle le témoignage peut être rendu dans ce monde de ténèbres. Depuis la mort de Christ, le monde est dans les ténèbres. La lumière s'est levée dans les ténèbres. Pour nous, hommes droits, nous n'étions pas droits par nature, rendus tels justes par l'œuvre de Christ. Eh bien, le monde subsiste dans les ténèbres. Combien on réalise de plus en plus que cette ville dans laquelle nous habitons, la capitale de la lumière, n'est en fait rien d'autre qu'une capitale des plus profondes ténèbres. On a beau chercher à cacher le mal ou le transporter d'un point à un autre, rien n'y change, rien n'y fait. Le système est complètement corrompu. Le monde est complètement perdu. Mais il devrait y avoir, au milieu de cette génération tortue et perverse, il devrait y avoir des points de lumière, un point de lumière ici, d'autres. Chaque vie, chaque croyant doit être une lumière répandue dans ce monde. Et rappelons-nous que non seulement nous nous tenons devant les anges qui voient la conduite de l'Assemblée et qui devraient y lire la sagesse si diverse de Dieu, c'est un des témoignages qui est confié à l'Assemblée dans les lieux célestes. Mais aussi, nous nous tenons devant les hommes tout au long de notre vie. Et on ne peut pas faire le partage de ce que nous sommes ici lorsque nous venons, tout sincères que nous soyons pour rendre culte ou écouter la parole du Seigneur Jésus, nous ne pouvons pas faire le partage entre cette vie de l'Assemblée, au moment, aux heures des réunions, et puis la vie que nous menons dans ce monde, si cette vie n'est pas en conformité avec le saint appel dont nous sommes appelés. Nous sommes lumière du Seigneur 24 heures sur 24 tout au long de notre vie. Eh bien, c'est ce que nous avons à garder pour nous-mêmes et à passer à ceux qui nous suivent, un statut perpétuel en leur génération. Chapitre 29, le verset 42, ajoute quelque chose de très précieux. C'est l'holocauste continuel. Voici ce que tu offriras sur l'autel. Verset 42, sera l'holocauste continuel en vos générations à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel, où je me rencontrerai avec vous pour y parler avec toi. Et je me rencontrerai là avec les fils d'Israël et la tente sera sanctifiée par ma gloire. L'holocauste, nous savons, c'était le premier des sacrifices qui était offert dans le Lévitique. Le premier qui nous marque le chemin de Dieu vers l'homme. C'est le sacrifice de Christ, mais dans ce côté de son offrande, pour Dieu, lorsqu'il s'est offert, l'expression a été citée ce matin dans le culte, à Dieu sans tâche par l'Esprit éternel. C'était une offrande qui était entièrement pour Dieu. Alors c'était une des missions de la tribu de Lévi, à part celle de présenter la loi au peuple, pour nous présenter le ministère de la parole dans l'Assemblée, parmi les saints, c'était celle de présenter l'Holocauste sur l'autel de Dieu. Nous sommes ici à l'autel d'Airain, qui est la figure de la croix. L'Holocauste, avec les autres sacrifices, sacrifices pour le péché, pour le délit, offrande de prospérité, de sacrifice de paix, ces sacrifices étaient offerts sur l'autel d'Airain, qui était à l'entrée de la tente d'assignation, non pas à l'intérieur. Il y avait autre chose aussi. À l'intérieur, il y avait l'autel d'or, l'autel des parfums. Ici, nous sommes encore à l'entrée de la tente d'assignation. Et c'est là que l'Holocauste était offert. C'est un Holocauste continuel qui était offert en vos générations à l'entrée de la tente d'assignation. Et là, Dieu se rencontrait avec l'homme. C'est la base même de notre culte et en même temps, c'est là le point fondamental qui est le départ de toute véritable évangélisation. Le lieu où Dieu se rencontre avec l'homme ne peut être que celui de la croix de Christ. On a souvent rappelé ici, les choses sont finalement très simples dans leurs images. Il y avait un premier voile entre le parvis et le camp lui-même. Le camp, c'est le monde. Le parvis, c'est le lieu où se trouvait à la fois l'autel et la cuve d'airain. Eh bien, on y trouve ici l'autel d'airain, qui est la figure de la croix de Christ, qui n'est plus dans le monde et qui n'est pas encore dans le tabernacle, l'image du ciel. C'est la croix. Christ était rejeté du monde et le ciel était fermé à sa place. Eh bien, c'est une œuvre merveilleuse par laquelle Dieu s'est rencontré là avec l'homme. Et tout a été changé. Lorsque, par la foi, cette œuvre est acceptée dans le cœur, Christ reçu comme le vrai sacrifice, comme celui qui a pris notre place sous le jugement divin, en même temps qu'il s'offrait dans cette même œuvre comme parfait à Dieu, en sacrifice, en parfum de bonne odeur. C'est une chose que nous avons à conserver. Et tout de suite après, au chapitre 30, il y a l'autel d'or. Tu mettras l'autel devant le voile, qui est devant l'arche du témoignage, Exode 30, verset 6, vis-à-vis du propitiatoire qui est sur le témoignage où je me rencontrerai avec toi. Verset 8, quand Aaron allumera les lampes entre les deux soirs, il le fera fumer, un encens continuel devant l'Éternel en vos générations. Vous n'y brûlerez pas d'encens étranger. Verset 10, il fera propitiation pour l'autel une fois l'an en vos générations avec le sang du sacrifice de péché des propitiations. C'est une chose très sainte à l'Éternel. Les choses se précisent et on voit bien comment les deux autels sont liés l'un à l'autre. Le premier autel qui était en dehors, qui est l'autel d'Israël, la figure de la croix. L'autel d'or, l'autel des parfums, est la figure de l'adoration et en même temps de l'intercession. Christ, qui est notre parfait intercesseur dans la présence de Dieu. Et on a remarqué que les parfums du sanctuaire, dont quelque chose a été dit ce matin à la fin du culte, celle de l'encens composé, où tout était à poids égal, sont des parfums que Dieu seul peut sonder, peut comprendre. Mais en même temps, ce parfum de la personne de Christ et de l'œuvre de Christ, de la croix, forme la base de l'intercession de Christ pour chacun de nous, pour sa chère Église, lorsqu'il est dans le sanctuaire pour nous représenter. Comme autrefois, Aaron entrait dans le sanctuaire céleste en portant, pour ainsi dire, Israël à la fois sur son cœur qu'il aimait et sur ses épaules qui étaient puissantes. Alors c'est la pensée qui se présente ici. Il y avait de l'autre côté, après le premier voile qui marquait l'entrée du tabernacle, il y avait la table, le chandelier, et il y avait au fond l'autel d'or, l'autel des parfums. Le sacrificateur n'y entrait qu'une seule fois par jour, à la neuvième heure, c'est l'heure de la mort de Christ. L'heure justement où Christ a poussé ce cri, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et puis il y avait tout de suite après le voile. Et lorsque la parole ne parle que d'un voile, celui qui nous parle de la chair de Christ, la mort de Christ, Hébreux 10 en particulier, et au-delà il y avait l'arche. Alors il y a un lien merveilleux entre l'arche et les deux autels. Si nous sommes à l'abri de l'œuvre de Christ, si nous avons donc passé à l'autel des reins, nous sommes qualifiés pour venir maintenant, par la puissance de l'Esprit Saint, jusqu'à l'autel d'or, l'autel des parfums, pour y ajouter quelque chose, l'encens continuel devant l'Éternel, en vos générations. Voilà ce que nous avons à passer à ceux qui nous suivent. Au chapitre 30, les versets 17 à 21 nous parlent de la cuve des reins. Alors, n'oublions pas que nous sommes encore dans le corps et que la chair est dangereuse en nous et qu'elle est prête à se mettre d'accord avec Satan pour nous faire tomber. Et il fallait que les sacrificateurs n'oublient pas qu'ils étaient encore des sacrificateurs empreints d'infirmité et même de souillure. Et les dispositions de la grâce, qui étaient en rapport avec la vérité, la gloire de Dieu, sa sainteté, ces provisions étaient telles qu'il y avait une cuve des reins qui était justement placée entre l'autel des reins et l'entrée du tabernacle. Au verset 21 d'Exode 30, « Ils laveront leurs mains et leurs pieds afin qu'ils ne meurent pas. Et ce leur sera un statut perpétuel pour Aaron et pour sa semence en leur génération. » Donc il est bon de penser que, bien de réaliser que nous sommes des adorateurs, en même temps nous sommes encore dans la chair, dans le corps. Nous sommes en Christ, c'est certain. Nous ne sommes plus vraiment dans la chair puisque arrachés à cet état par l'œuvre de Christ. Mais la chair est encore en nous. C'est dans cette position ambiguë et provisoire où il y a la cohabitation des deux natures. Et nous avons à être conscients du danger que représente pour nous l'habitation en nous-mêmes de ce qu'est la chair, qui a été condamnée, mise à mort, mais dont justement nous avons maintenant à mortifier les actions. Nous avons à nous tenir pour nous-mêmes pour morts au péché et pour vivre à Dieu dans le Christ Jésus. Alors comment ces choses peuvent-elles être réalisées? Eh bien, c'est en passant habituellement dans la cuve des reins, à la cuve des reins, avant d'exercer ce service. C'est le jugement de soi-même. On trouve la même pensée dans bien d'autres passages, notamment dans le passage après le Jourdain, le passage de la circoncision dans les plaines de Jéricho, dans la plaine de Gilgal, le roulement de l'opprobre de l'Égypte. N'oublions pas que nous avons à laver nos mains et nos pieds, la marche et les actes. Bien plus d'ailleurs pour le chrétien, il faut juger non seulement les pensées, les sources profondes des pensées. Tout cela est lié si intimement dans un homme. Ses actes, sa marche, ses pensées, ses paroles. Il fallait qu'ils lavent leurs mains et leurs pieds afin qu'ils ne meurent pas et ce leur sera un statut perpétuel pour Aaron et pour sa semence en leur génération. La dernière pensée que je voulais présenter est au chapitre suivant, au chapitre 31. Où en leur génération aussi nous trouvons le sabbat. Exode 31, 13, « Vous garderez mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous, en vos générations. » Verset 16, « Les fils d'Israël garderont le sabbat pour observer le sabbat en leur génération, une alliance perpétuelle. » À la fin du verset 17, il nous est dit, « Le septième jour, Dieu s'est reposé et a été rafraîchi. » Expression remarquable. Le sabbat, nous le savons, était le septième jour de la création. Il a été sanctifié, c'est-à-dire mis à part par Dieu lui-même, alors que Dieu a considéré son œuvre par sa propre parole en création. Pendant 6 jours, il a arrangé les cieux et la terre, les a formés pour sa propre gloire, pour la joie de son cœur. Il en a été rafraîchi, il s'est reposé, il avait placé au 6e jour l'homme comme étant le dépositaire de l'autorité et comme devant jouir sans contrainte, en toute tranquillité, des privilèges que Dieu lui accordait par pure grâce. Nous savons ce qui est arrivé. L'homme n'en a guère joui probablement plus d'un jour. Mais ici, on a gardé le souvenir, on devait le garder au milieu du peuple d'Israël, du souvenir du repos de Dieu dans la création. Ce repos a été troublé, a été interrompu par l'entrée du péché. La raison pour laquelle il nous est dit dans la bouche du Seigneur lui-même, « Mon Père travaille jusqu'à maintenant et moi je travaille. » Il a fallu que Dieu se remette au travail. Et c'est notre faute. C'est notre premier père, Adam, avec sa femme Ève, qui en sont responsables, et nous y avons bien ajouté notre part. Il a fallu que Dieu travaille. Et son œuvre, il l'a confiée à son fils. L'œuvre qu'il avait placé entre les mains de son fils. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Maintenant, Christ continue de travailler. Il a souffert, il est mort, pour sauver, pour rassembler en un les enfants de Dieu dispersés. Le Saint-Esprit maintenant travaille, et chacun à notre tour, nous avons à travailler dans le champ du Maître, dans la mesure où le Seigneur nous y envoie. Mais il y aura à la fin de ce moment, cette période de travail, qui a duré combien ? Donc presque 70 siècles. Il y aura un jour un repos éternel. Et ce sera le repos de la rédemption. Et le sabbat pour nous, s'il n'a pas à être évidemment gardé ni par les croyants, ni chrétiens, ni par l'Église, puisque c'est en rapport avec le peuple terrestre, c'est maintenant le premier jour de la semaine, le premier, non pas le septième jour de chaque semaine, qui est mis à part pour le service de l'adoration et pour le souvenir de la mort de Christ. Mais il y a devant nous l'espérance d'un repos bien plus excellent que ce repos de la première création. C'est le repos de la rédemption. Il demeure maintenant un repos sabbatique pour le peuple de Dieu, qui est dans une grande mesure un repos qui est encore à venir, qui est encore lointain peut-être, mais qui est réel si on le saisit par la foi. Nous ne sommes pas arrivés à la source, mais nous en goûtons déjà dès maintenant les effets. Cette source qui découle de Christ, de son œuvre, dans le sanctuaire céleste. Alors si le sabbat devait être gardé pour Israël, maintenant, nous avons à garder le souvenir à notre génération du moment où alors nous aurons atteint la maison. Le moment où alors il n'y aura plus ni de souvenir de misère, ni de la vigilance contre nous-mêmes, contre ces ennemis extérieurs ou intérieurs, contre ces loups ravissants qui auront déchiré le troupeau, contre toutes ces choses qui auront brisé notre cœur, parce que bien souvent on n'arrive pas à se comprendre, et bien toutes ces choses donneront place au repos parfait de celui qui se reposera éternellement dans son amour. Voilà l'espérance parfaite de l'Église. Et pour que cette espérance soit une réalité, il faut que Jésus revienne. Et c'est ce que nous annonçons, ce que nous vous annonçons, chers jeunes, c'est que chaque fois que nous rompons le pain, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà ce qui constitue la doctrine chrétienne résumée dans ces quelques passages que la parole enseigne à l'occasion de l'histoire du peuple d'Israël. Alors comment les choses ont-elles été transmises d'une génération à l'autre ? Alors je voudrais, sans entrer dans trop de détails, sans même lire les passages, citer quelques exemples. Premier exemple, les deux frères, Moïse et Aaron. L'un le législateur, l'autre le grand souverain sacrificateur. Merveilleusement doués et remarquablement fidèles dans ce qui leur a été confié. Le témoignage que Dieu a donné à l'égard de Moïse, par exemple, est remarquable. Personne ne s'est levé comme lui. Ces deux hommes, Moïse et Aaron, on peut bien penser qu'ils ont élevé leurs enfants, leur génération, les générations qui les ont suivis, dans les choses où ils étaient même au centre de ces choses. Alors qu'est-il arrivé ? Jonathan, petit-fils de Moïse, a été l'instrument dans le livre des juges pour faire tomber la tribu dedans dans l'idolâtrie. D'un autre côté, le petit-fils d'Aaron, après Éléazar, c'est Phinès. Et Phinès a été l'instrument le plus béni pour ramener le peuple dans les temps les plus difficiles. L'autel de Hède, à la fin du livre de Josué, et l'affaire si terrible de Guiba de Benjamin. Phinès s'est tenu à la brèche. Et le témoignage en est même rendu dans un psaume, si Phinès ne s'était pas tenu à la brèche. De sorte, ces deux frères, qui étaient, je crois que Aaron était l'aîné de Moïse de 4 ou 5 ans, deux frères qui ont vécu ensemble, qui ont porté le peuple, l'un et l'autre, pendant presque 40 ans, puisque l'un et l'autre ont terminé leur course juste avant l'entrée dans le pays de la promesse, ont eu des enfants et des petits-enfants qui ont été élevés dans les mêmes choses. L'un a été aussi fidèle que possible, l'autre aussi infidèle que possible. Un autre exemple, David. David, le doux psalmiste d'Israël. Il n'y a point d'homme sur la terre dont le témoignage vous a été conservé par l'Écriture qui ait pu dire des choses pareilles concernant Christ. C'est le cœur même de David. Ses affections ont été l'instrument par lequel Dieu lui-même, dans sa sagesse, a voulu nous faire comprendre quelles étaient les pensées de Christ, notamment sur la croix, dans sa vie. Les psaumes de Christ, qui nous parle de ses souffrances, le psaume 22 en particulier, ne pouvait pas être écrit par qui que ce soit d'autre que David. Alors qu'est-il arrivé ? Nous savons bien l'affaire de Bathsheba, qui a été désastreuse dans la vie de ce cher homme de Dieu. À la fin de sa vie, que dit-il ? « Quoique ma maison ne soit pas ainsi avec Dieu, néanmoins, il a fait avec moi une alliance éternelle. » Et que voit-il devant lui ? Eh bien justement, l'aube du jour éternel, le matin sans nuage. Quant à lui, évidemment, il n'avait pas de sujet de gloire dans sa maison. Il avait d'ailleurs lui-même déclaré son propre jugement quand Nathan est venu le trouver pour lui parler de la petite brebis, mais il va la rendre au quadruple. Effectivement, il l'a bien rendu au quadruple. Le petit enfant, Absalom, Amnon, Adonija. Les quatre sont partis. Quoi que ma maison ne soit pas ainsi avec Dieu. Et pourtant, il y avait quelqu'un que Dieu aimait dans cette famille. C'était Salomon. Salomon est le 10e fils de David. Il n'y avait aucune raison que Salomon monte sur le trône, sauf que Dieu l'avait dit ainsi. Et Dieu était souverain. Salomon n'est pas l'enfant qui a été donné par Bathsheba à David pour le consoler de la mort de cet enfant qui était mort après l'affaire de Bathsheba, après l'affaire d'Uri. C'est probablement le 3e après. Il était 10e fils de David. Salomon a été le confident de son père. Son père l'a élevé dans ces choses. Et que dit-il? On l'a lu à Pâturage l'autre jour. C'est un passage de toute beauté. En Proverbe 4, il nous est dit au verset 3, « J'étais un fils pour mon père, tendre et unique auprès de ma mère. » David et Bathsheba ont donc élevé cet enfant selon la règle de leur voix. C'est la parole même de Salomon. Salomon a merveilleusement commencé. Pourquoi a-t-il mal terminé? Et pourquoi la suite de l'histoire de Salomon a été si triste? Bien simplement parce que Salomon n'a pas gardé la parole de l'Éternel. Il a été placé sur le trône d'une manière providentielle, divine. C'est Dieu lui-même qui l'a mis sur le trône. David instruit son enfant au moment de son départ. Et Dieu, pour ainsi dire, adopte Salomon. C'est une pensée qui est tout à fait remarquable. Je l'ai trouvée au verset 1 Chronique 28, le verset 6. Les mêmes pensées se trouvent en 1 Chronique 17, juste avant que David entre dans la maison de l'Éternel pour s'asseoir devant lui et pour le remercier. 1 Chronique 28, le verset 6. Salomon, ton fils, c'est lui qui bâtira ma maison aimée par lui. Car je me le suis choisi pour fils, et moi je lui serai pour père. Alors, c'est maintenant, ça c'est l'Éternel qui le dit. Au verset 9, 1 Chronique 28, 9, c'est David qui parle à Salomon. « Toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, et sers-le avec un cœur parfait, et avec une âme qui y prenne plaisir. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et discerne toutes les imaginations des pensées. » Donc on peut dire que David avait la pensée de Dieu, Dieu a aidé son serviteur pour que Salomon soit élevé dans ces choses et que Salomon soit un roi fidèle. Alors évidemment, Salomon, dans toute sa gloire, a été un merveilleux type de ce que sera Christ dans le règne millénaire. Mais en tant qu'homme, que personne responsable, que croyant responsable, quelle est l'instruction que nous avons tirée de l'affaire de Salomon? Eh bien, c'est que Salomon n'a rien fait des 4 commandements que Dieu avait donnés au roi. Le roi ne devait pas descendre en Égypte pour chercher des chevaux, ne devait pas avoir une grande fortune, il ne devait pas avoir beaucoup de femmes, et il devait surtout se garder d'oublier la loi de l'Éternel. Il devait avoir une copie de la loi pour lui et la lire tous les jours. Aucune de ces choses, Salomon ne les a gardées. Alors l'inévitable est arrivé, ses femmes en particulier, il avait une famille qui est une véritable folie, ses femmes ont complètement détourné son cœur, il est tombé dans l'idolâtrie. Justement, ce qui avait été condamné parmi le peuple d'une manière si évidente par Dieu, c'est Salomon tombe dedans. Alors Salomon s'est ruiné ses pensées à la fin de sa vie pour se demander ce qui allait arriver. C'est la raison pour laquelle l'Ecclésiaste nous fait part de ce désastre moral qui rongeait Salomon. C'était la vanité des vanités. Et particulièrement les choses qui ennuyaient Salomon, c'était de savoir ce qui allait arriver de ce qu'il laissait derrière lui. Il y avait un homme qui le suivrait, c'est Roboam. Et l'Ecclésiaste 2 nous dit, mais une des vanités, c'est de savoir si celui qui sera après moi sera un sage ou un sot. Alors qu'est-il arrivé, évidemment? Roboam avait quand même bien vu l'exemple de Salomon. Et Roboam, prétentieux, content de lui-même, tombant dans ce travers de l'orgueil de la vie, délaisse le conseil des vieillards, prend le conseil des jeunes gens et démolit le peuple qui avait été confié à sa garde. Pourtant, gardons-nous activement de porter des jugements finaux sur les choses. C'est Dieu lui-même, justement, qui juge les pensées et les imaginations des cœurs. Parce que si Roboam a été l'occasion, l'instrument pour la scission, pour le schisme entre les 10 tribus et les 2 tribus, il y a quand même une chose qui a été mise au crédit de Roboam. C'est 2 Chroniques 11, le verset 13. Les sacrificateurs et les lévites qui étaient dans tout Israël se joignirent à lui de toute leur contrée, Roboam qui demeure à Jérusalem. Car les Lévites abandonnèrent leur banlieue et leurs possessions et vinrent en Juda et à Jérusalem parce que Jéroboam et ses fils les avaient repoussés de la sacrificature de l'Éternel. Et au verset 16, « À leur suite, tous ceux de toutes les tribus d'Israël qui avaient mis leur cœur à chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël, vinrent à Jérusalem pour sacrifier à l'Éternel, le Dieu de leur père. » Roboam a quand même été, au milieu de son infidélité, un point de ralliement pour que la maison de Dieu soit reconnue comme étant le centre du ralliement du peuple à Jérusalem. Il est resté à Jérusalem et les Lévites et les sacrificateurs et ceux qui avaient leur cœur à ces choses sont venus à Jérusalem. Un autre exemple remarquable, c'est les derniers rois de Juda. Deux hommes particulièrement fidèles dans les temps de la faim, dans les temps sombres du peuple de Juda, les deux derniers réveils, c'est Ézéchias et Josias. Ézéchias était fils d'Akaz. Et Akaz a été un roi méchant. Josias était petit-fils de Manassé. Et Manassé a été un roi méchant, bien qu'à la fin de sa vie, il soit revenu à lui-même. Alors Ézéchias, donc, était fils d'un roi méchant et a eu comme fils celui qui l'a suivi, a été aussi un roi méchant. Lui a été un roi fidèle. Josias, il a été petit-fils et fils de deux rois qui ont été complètement infidèles. Et il a été fidèle. Il a été suivi par qui? Les quatre derniers rois avant la transportation. Joachaz et Jéhoiakim, qui sont les deux fils de Josias, et Jéhoiakim et Sédécias, qui sont les deux fils de Jéhoiakim, c'est-à-dire les petits-fils de Josias. Quatre rois qui ont un partage triste, c'est d'avoir été aussi infidèles les uns que les autres. Et l'acte de Sédécias, qui a été de jurer à Nebuchadnezzar de ne pas se rébeller au nom de l'Éternel, qui est un parjure, a été la dernière occasion par laquelle il a fallu que Dieu sévisse et en termine avec son peuple, il n'y avait plus de remède. Eh bien, Jéhoiakim n'a pas écouté ce que Dieu lui disait. Et on est frappé de voir que le témoignage même de ces choses nous est donné en Jérémie 22. Jérémie 22, 15. C'est Dieu qui parle par Jérémie à Jéhoiakim, donc le deuxième descendant de Josias, en parlant de son père. Ton père, il est donc question de Josias. Ton père n'a-t-il pas mangé et bu et pratiqué le jugement et la justice? Alors il s'est bien trouvé. Il a jugé la cause de l'affligé et du pauvre. Alors cela a bien été. N'est-ce pas là me connaître? Dit l'Éternel. Jéhoiakim aurait dû connaître ces choses. Et ça, le témoignage que Dieu donne par l'avertissement qu'il a adressé à nos parents est de toute importance. Un autre exemple se trouve parmi les nations. C'est juste au moment du festin de Belshazzar. Belshazzar était en vie lorsque Nebuchadnezzar, son père, a connu le jugement qui l'a transformé en animal des champs pendant 7 ans. Et Dieu lui dit par Daniel, « Tu as vu ces choses, et bien que tu les aies connues, tu n'en as rien fait. » Ça a été une des raisons du jugement de Belshazzar. Sorte qu'on comprend bien pourquoi, parmi le peuple d'Israël, il y avait un proverbe qui circulait en disant, « Les pères ont mangé du raisin vert, et les dents des fils en ont été agacées. » Et Dieu ne voulait plus supporter qu'un tel proverbe circule parmi son peuple. Pourquoi? Bien parce que c'est l'âme qui a péché qui doit mourir. De sorte que, première pensée, le fait que nos parents, le fait que ceux qui nous ont devancés dans le chemin de la foi aient été fidèles, n'est pas une garantie de fidélité pour ceux qui les suivent. Et d'un autre côté, pour bien garder l'équilibre, eh bien, si ceux qui nous ont devancés ont commis des erreurs, ce n'est pas une raison pour nous abriter derrière ces erreurs et dire que nous ne sommes pas coupables. De sorte que, en définitive, ce que nous avons à apprendre, c'est à la fois à éviter les pièges et les obstacles que nous avons vus parmi ceux qui nous ont précédés, imiter leur foi, leur conduite, et ainsi honorer leur mémoire, et c'est Hébreux 13 qui nous le dit, et en définitive, marcher humblement dans la confiance et dans l'entière dépendance de Dieu, dans la jouissance parfaite de sa grâce. En définitive, nous sommes toujours rejetés sur la grâce de Christ. Et c'est Dieu lui-même qui nous garde. C'est Christ lui-même qui nous garde et qui garde son assemblée jusqu'à la fin. Qu'il veuille bien le faire pour sa propre gloire.